Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
Si l'on devait faire le tour du monde des alcools, on passerait par l'Écosse et son scotch whisky, par le Mexique et sa tequila, par la Russie et sa vodka, par le rhum cubain, le Porto du Haut-Douro et bien sûr par le saké japonais. Ce sont des marqueurs forts d'un pays. On a l'image d'un Japon qui n'en finit pas de vieillir, le saké, lui, ne veut pas mourir. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et aujourd'hui, on va vous expliquer comment le saké peut retrouver une deuxième jeunesse. J'ai eu plusieurs fois la chance de me rendre au Japon. Je me souviens notamment d'un restaurant. Pour me plier à la tradition, je me laisse tenter par un verre de saké, un alcool de riz, appelé aussi bière de riz. Le serveur pose près de moi une petite boîte laquée noire, le masu. Dedans, il y a un grand verre. Il commence à le remplir à ras-bord, puis le liquide déborde et coule dans le masu. C'est comme ça qu'on le sert. C'était il y a quelques années, je ne le savais pas encore, mais je découvrais le saké old school. Le Japon un peu dépassé. Le saké a une image vieillotte au Japon. Depuis 1973, la consommation a été divisée par 3 et des centaines de brasseries ont fermé leurs portes. Il n'y en aurait plus que 1200, souvent de petite taille, 3 fois moins qu'en 1980. Pourquoi les Japonais se désintéressent-ils de cet alcool millénaire siroté à la cour impériale depuis le 8e siècle ? La question ne pouvait pas échapper à Yann Rousseau. C'est le correspondant des Échos à Tokyo. Pour les Échos Week-end, il est parti à la rencontre des évangélistes du saké, ceux qui veulent redonner à cet alcool ses lettres de noblesse. Mais d'abord, il y a le constat que dresse Yann Rousseau. Le saké est passé de mode. Et c'est un drame pour le Japon.
On est en gros aujourd'hui à un tiers de la consommation où on était au pic, qui était au début des années 70, au pic de production du saké dans le pays. Il y a plein de raisons qui font qu'on boit de moins en moins de saké. D'abord, c'est une période qui a été une période d'ouverture au Japon, donc il y a eu énormément de découvertes d'alcool globalisé, d'alcool mondiaux. Le pays s'est ouvert aux modes étrangères, il y avait une grosse influence américaine, les gens ont découvert le gin, le whisky, énormément de whisky ici. Donc la jeunesse s'est plutôt détournée progressivement de cette boisson qui est vue plutôt comme la boisson de papa ou de papy, pour des alcools forts ou des bières, comme le reste de la jeunesse en fait. En plus, c'est un produit qui n'a pas trop évolué, c'est-à-dire qui reste en termes de marketing le fruit de petits artisanats. Il y a très peu de grands players, de grands groupes de saké. Donc, c'est une industrie très, très morcelée avec des concurrences régionales. Donc, c'est des brasseries, on appelle ça des kuras. Et ces petites kuras sont pas organisées entre elles. Elles font des petites productions et elles ont pas du tout les codes du marketing global et mondial. Et du coup, elles n'arrivent pas à lutter contre un whisky à la mode, contre un gin, contre des bières, et ainsi de suite. Donc, ça souffre beaucoup. Et le seul moyen de survivre, ça serait de partir à l'international, de s'exporter. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui ne se passe pas vraiment. Enfin, c'est le projet, c'est sûrement le point de survie, le plan de survie pour les producteurs de saké. Mais l'export aujourd'hui, c'est à peu près 5% seulement de la production japonaise. Donc, on n'est qu'au début d'une grande campagne de sauvetage. Et dans la baisse de la consommation, il ne faut pas oublier que le Japon, le grand drame du Japon, le drame central du Japon, c'est sa démographie. Le Japon perd 500 000 habitants par an du fait d'un taux de natalité totalement effondré. Ils sont à 1,4 enfants par femme en moyenne. Il faut 2,1 si on veut maintenir la population à un niveau stable. Et ça va s'accélérer à partir des années 2030. On aura 1 million de personnes en moins dans le pays chaque année. Donc, c'est autant de consommateurs qui disparaissent parce que, comme le saké est plutôt une boisson, donc comme on l'a dit, plutôt privilégiée par les plus de 50 ans, les plus de 60 ans, ben c'est ces consommateurs de saké qui vont disparaître très vite. Donc, si on n'arrive pas à donner envie aux jeunes, si on n'arrive pas à vendre à l'étranger, il y a une espèce de condamnation du produit. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'évangélistes du saké, il y a plein de gens qui essayent de sauver le produit.
Parmi ces évangélistes, vous avez visité une brasserie, la brasserie Iwase Shuzo, qui témoigne d'ailleurs de cette difficulté à survivre. Pourtant, Yann, c'est l'un des meilleurs sakés du monde, c'est ça ?
Cette petite brasserie que je suis allé voir, donc elle est à Chiba, elle est dans le port de Honjuku, et c'est une petite boîte familiale. Le papy qui en ce moment la gère est la 11e génération à la tête du groupe. Il travaille à l'ancienne, il fait un super produit qui a été repéré par les équipes de Wine Advocate. Donc c'est Robert Parker, l'Américain, qui est le grand Manitou pour une certaine population du vin, qui est très influent aux États-Unis. Mais ils ont mis des notes, et dans les meilleures notes, dans les trois meilleures, il y a cette petite production à Honjuku, cette boîte. Et ils font un produit très agréable, très doux, très fin. On se trompe souvent sur le saké parce qu'on pense que c'est un alcool fort, qui est cet alcool infâme qu'on vous donne quand vous allez manger dans des restos chinois du 13e. Vous savez, avec la fille toute nue au fond du verre. Ça, c'est pas du tout du saké. On a appelé ça saké par extension et parce que on connaît pas le nom des alcools chinois. L'alcool chinois infâme, c'est le paijiu. Donc, les gens disent qu'ils pensent qu'ils boivent du saké et du coup, l'image du saké est détruite parce que ce truc est un arrache boyau terrible. Le vrai saké est un produit très doux, un peu comme un chardonnay, enfin un peu crispy, fin, un petit peu plus alcoolisé que le vin, c'est tout. C'est un produit de fermentation comme le vin. Et donc, du coup, ce produit qui est fait à Chiba, dans cette petite Kura, cette petite brasserie, est vraiment très fin, très doux. Mais le producteur, donc ce papy qui a plus de 70 ans, quand je lui demande « Mais alors, vous en exportez beaucoup ?» Il me dit « Ah oui, là, depuis que le guide nous a bien classé, on en exporte beaucoup, presque 15%. » Je lui dis « Ah, mais c'est vachement bien, puisqu'il n'y a que 5% d'exportation d'habitude. » Et il me dit « Ah oui, oui. » Je lui dis « Mais vers quel pays vous en exportez ?» Il me dit « Quel pays ?» Mais non, on en envoie à Tokyo et à Osaka. Ah, d'accord. Donc, pour lui, les exportations, c'est en dehors de la province. Parce que le saké, c'est une boisson pauvre, c'est une boisson d'ouvriers qu'on sert dans les restaurants populaires et qui se vend pas cher. Donc, pour lui, ils n'ont pas de grands plans de luxe. Quand il définit son prix, il ajoute le prix du travail, le prix de l'eau, le prix de l'électricité, le prix du riz. Et il se met une marge de 3% et il sort des bouteilles à 25€, alors que c'est le troisième meilleur saké du monde. Donc, ils ne sont pas du tout globalisés, ils n'ont pas conscience des codes du luxe, des codes des grands marchés. Et c'est un peu triste parce qu'il fait un produit dément que tous les connaisseurs adorent. Il y a des chefs qui vont lui acheter des bouteilles pour servir dans des restos 3 étoiles à Tokyo ou à Paris ou à New York. Mais il ne voit pas d'avenir. Il fait une toute petite production. C'est un travail assez dur, avec des marges minuscules. Ses enfants ne veulent pas reprendre l'exploitation et ils se demandent si la boîte ne va pas mourir. Il y a des centaines de brasseurs, de brasseries qui ferment la porte chaque année parce qu'il n'y a pas de consommation intérieure et il n'y a pas de plan pour s'étendre.
Comme beaucoup de brasseries japonaises, Iwase Shuzo livre surtout les restaurants locaux. Au point, racontait Yann dans les Échos Week-end, de ne pas avoir de site internet, ne serait-ce que pour se faire connaître. À l'écouter, on a un peu le sentiment de brasseurs qui en sont restés au siècle passé, tout en préservant la qualité de leurs produits. En soi, ce n'est pas un mal, mais cela pose la question de la survie de ces brasseurs. D'autres ne sont pas dans cet état d'esprit. Yann Rousseau a aussi observé la montée en puissance d'une nouvelle génération qui a l'ambition de dépoussiérer l'univers du saké, de lui offrir une deuxième jeunesse avec des codes plus modernes.
Il y a une forme de retour, mais on a peut-être ça aussi en Occident, mais il y a un retour au terroir d'une jeunesse qui s'est globalisée, qui est venue venir à Tokyo, qui a adopté tous les codes de l'Occident et qui se dit « mais finalement, on a des choses qui sont pas mal dans notre propre terroir, essayons de nous les réapproprier et de les réinventer ». Donc, on a des expériences, surtout tout depuis 2010, 2011 au Japon, avec aussi des étrangers qui poussent à ça, des gens qui se sont arrêtés de travailler dans la finance, dans la construction ou dans le luxe, qui sont attachés au saké et qui trouvent que ce serait vraiment dommage qu'ils meurent. Et donc, il y a cette conjugaison d'efforts et ces jeunes qui essayent de changer l'image du saké, de le réinventer et de le refaire découvrir aux jeunes. Donc, il y a plein d'initiatives. J'étais à un festival qui est à Aoyama, c'est un quartier chic de Tokyo où il y a toutes les boutiques de luxe, des boîtes à la mode, des bars à la mode. Et donc, ils font un petit festival avec de la musique, des jeunes producteurs qui présentent des sakés plutôt sympas, faciles, sous d'autres formes, notamment des sakés pétillants, parce qu'on peut un peu champagniser le saké si on veut, et donc ça lui donne une touche plus fun, c'est-à-dire quand ça lui donne une excuse pour le boire en apéritif. Et c'est pas forcément en mangeant des sushis qu'on va boire son saké. Lors de ce festival, il y a des concerts, il y a de la musique, il y a des artistes. On sert du saké avec du fromage, on sert du saké avec des sandwichs. On montre que voilà, le saké, c'est polymorphe, ça peut passer avec plein de choses. C'est un peu une boisson potentiellement 4-4 qui pourrait vraiment aller comme la bière ou un vin rouge. Il n'y a pas de raison d'avoir une occasion spéciale de boire du saké. Donc, c'est plutôt sympa. Il y a des DJ étrangers qui se sont mis au saké parce qu'ils expliquent que quand ils faisaient des tournées à Tokyo et qu'ils voulaient s'enivrer, le saké, on s'amuse et on a pas mal à la tête le lendemain. C'est une boisson presque bio. Il y a toute une production organique ici puisque c'est assez simple. Hein. C'est du riz, c'est un riz spécial, c'est un riz très riche en amidon. Donc c'est pas le riz qu'on mange que vous mettez dans votre rice cooker. C'est pas le même riz, c'est un riz spécial. La grosse partie du riz vient d'une seule région qui s'appelle Yogoken. Et donc vous rajoutez de l'eau de source naturelle à ça et c'est tout. Et un petit peu de levure. Il n'y a pas de traficotage. On rajoute pas d'alcool, on rajoute pas de sucre, on rajoute pas de colorant, on rajoute rien.
C'est organique, comme on dit aux États-Unis. Sans sucre ajouté, une boisson naturelle à consommer avec modération. C'est vrai que ce peut être un angle d'attaque marketing pour faire revivre le saké. Mais d'autres aficionados de la bière de riz vont encore plus loin et visent l'univers du luxe.
Donc il y a des DJ, il y a des gens qui font des fêtes, qui se sont mis là-dedans, qui se sont réappropriés ce produit pour essayer de le vendre sous une autre forme, alors plus luxe, plus fun. On change les étiquettes parce qu'aujourd'hui, c'est des étiquettes avec des kanji. Donc, c'est les idéogrammes, les caractères japonais qui sont illisibles parce que c'est des vieux textes. Donc, vous avez plein de brasseries qui ont 100 ans ou 200 ans d'histoire que même les Japonais n'arrivent pas à lire eux-mêmes. On comprend rien à ces étiquettes. Donc, ils ont changé. Ils font des étiquettes fun, simples pour parler aux jeunes. Et donc, il y a un vrai renouveau. Il y a vraiment des initiatives. Il y a des saké bars trendy avec de la musique qui ouvre dans Tokyo pour casser cette image de la boisson à papa. Il y a un vrai effort. Donc, pour l'instant, c'est des volumes minuscules. C'est des niches dans les grandes villes. Mais il y a au moins quelque chose qui se passe et qui ne se passait pas avant. Donc, c'est les évangélistes et les étrangers qui essayent de sauver ça sont à fond sur ces projets. Il y a aussi pas mal d'anciens maîtres de cave ou chefs de cave de grands groupes français, notamment de Dom Pérignon, qui est géré par LVMH, par Moët&Messy, qui, après leur carrière, mais qui ont beaucoup tourné au Japon. Vous savez, le Japon, c'est un grand marché du luxe. Donc, beaucoup de ces gens sont habitués à venir au Japon, à découvrir le terroir japonais et la gastronomie japonaise. Et bien, il y a des gens de ces groupes qui reviennent au Japon en deuxième vie ou après leur retraite en France pour se lancer dans des produits. Et il y a un super projet en ce moment monté par l'ancien maître de cave de Dom Pérignon, qui fait des assemblages de saké avec des producteurs de la région de Toyama. Donc là, on est sur la côte ouest du Japon, vers le côté chinois, et qui vont sortir un saké marketé luxe, donc affiné, marketé luxe, donc plus cher que les productions des brasseries, mais ils ont des grosses ambitions à l'international. Donc, c'est très intéressant.
Le saké parviendra-t-il à renouer avec la jeune génération japonaise ? Il y a encore du travail. Mais une autre bataille attend aussi les brasseurs, et cela peut être une nouvelle chance pour eux. L'export. On a entendu avec Yann, tous ne sont pas prêts à dépasser les frontières. Pourtant, l'alcool de riz a une chance à saisir. Ailleurs qu'au Japon, il est à la mode, en Grande-Bretagne et aux États-Unis, et la France n'est plus insensible à son charme. Grâce au travail de ces évangélistes dont Yann parlait à l'instant, des passionnés du Japon comme Julien Cazorla et Siméon Mollard qui ont créé osake.fr. Depuis plus de 7 ans, ils visitent des dizaines de brasseries au Japon et importent du saké. Un sacré pari. D'ailleurs, c'est la question que j'ai tout de suite eu envie de poser à Siméon Mollard. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour importer du saké au pays du vin, du cognac et de l'armagnac.
Non, il faut être passionné d'un côté. Et puis nous, en fait, c'est parti d'un constat. On s'est juste rendu compte que les Français ne connaissaient pas le vrai saké. Et quand nous, on a eu l'occasion de le découvrir au Japon, enfin, on s'est dit c'est pas possible de passer à côté de ça. Justement, pour des amateurs de vin, c'est dommage. Enfin, au niveau de la dégustation des saveurs, c'est tellement complexe. C'est un alcool passionnant. Donc voilà, c'est parti juste d'une envie. Après, on savait absolument pas dans quoi on se lançait non plus.
Il y a vraiment une différence entre les sakés ?
Oui, il y a plus de saveurs que dans le vin. On dit qu'il y a 600 arômes dans le saké. Il y en a que 300 dans le vin. Donc, c'est déjà pas mal, hein, mais on passe vraiment du tout au tout.
Ça a été compliqué, ce projet ?
Alors, nous, on a eu une chance énorme. C'est de rencontrer, en fait, un maître brasseur de saké qui est Monsieur Umetsu. Au tout début, quand on a lancé notre projet, et Monsieur Umetsu, en fait, est un brasseur ultra traditionnel qui brasse ses sakés pratiquement tout à la main avec des levures naturelles. Et donc, il nous a enseigné le saké de façon traditionnelle. Enfin, sans lui, on n'aurait pas pu réussir. C'est vraiment lui qui nous a formés, qui nous a tout appris au début et qui nous a permis de rentrer dans ce monde-là qui est assez complexe, effectivement.
Au Japon, le saké a une image de boisson pour les aînés. En France, c'est différent ?
Oui, c'est différent. Bah, déjà parce que même au Japon, ils commencent à renouveler un peu les genres, avec notamment les sakés pétillants, les sakés fruités. Et en France, on importe beaucoup du saké dit premium, donc les sakés avec un très fort taux de polissage ou avec sans alcool ajouté, enfin des sakés de bonne qualité. Ce qui fait que c'est des sakés très intéressants et qu'on passe, on va éviter un peu les sakés industriels qu'on peut retrouver au Japon, qui sont, on va dire, un peu moins intéressants gustativement. En France, on passe directement voilà, sur le saké premium.
Comment est-ce qu'on différencie un saké d'un autre ?
Dans la façon de faire aujourd'hui, on aime bien faire des différentes catégories en fonction du taux de polissage. Donc, plus on va polir le grain de riz, plus le saké va être fin et élégant. Nous, ce qu'on aime bien justement dans la façon aussi traditionnelle, c'est que c'est pas forcément signe de qualité. En fait, on peut faire des sakés très fortement polis et qui seront moins intéressants que des sakés qui utilisent un riz peu poli, qui sont très traditionnels. Et on passe entre ces deux sakés, ces deux styles de sakés, c'est vraiment, on passe du tout au tout. On passe de quelque chose de très fin en bouche, très délicat, à quelque chose avec beaucoup plus de corps, beaucoup plus complexe. Et après, en fonction du vieillissement, également, on peut avoir d'autres palettes aromatiques, d'autres saveurs.
Vous vous voyez aussi comme un évangéliste du saké ?
En fait, on se considère encore comme des élèves surtout. On apprend parce que quand on voit que notre Monsieur Umetsu, dont je vous ai déjà parlé, qui a consacré sa vie au saké, dit qu'il n'est pas maître brasseur, dit qu'il n'est qu'un élève encore, qu'il a encore tout à apprendre. Enfin, un peu d'humilité fait du bien à tout le monde.
Alors, vous êtes, vous, justement, dans la phase d'apprentissage et en même temps, vous formez. C'est ça, des sommeliers ?
Exactement. Donc, on représente en France la Saké Sommelier Association, qui est un organisme international qui donne donc des formations en langue native dans chaque pays. Il donne notamment le certificat de Saké Sommelier, SSA. Donc, ce certificat, c'est au bout de 2 jours de formation intensive avec 20 sakés dégustés, analysés. Après, on passe un examen et ceux qui réussissent l'examen deviennent Saké Sommelier SSA, qui sont très différents des Kikizakeshi, les vrais Saké Sommelier japonais. Il faut aussi raison garder. Mais c'est une très belle porte d'entrée puisqu'après, on peut travailler dans le monde du saké. On a les connaissances nécessaires pour cela.
C'est beaucoup de personnes aujourd'hui en France ?
On a formé environ entre 100 et 150 personnes pour le moment.
Et vous importez combien de bouteilles ?
Alors actuellement, on est à 10 000 bouteilles. On va passer, je pense, à entre 10 et 15 000 là cette année. On exporte aussi en Belgique, en Suisse, notamment le saké français aussi, avec Grégoire.
On fabrique donc du saké en France. Siméon m'a mis l'eau à la bouche et je n'ai eu plus qu'une envie, trouver ce fameux Grégoire qui s'est lancé dans ce projet incroyable, ouvrir une brasserie. Elle s'appelle Les Larmes du Levant et est installée près de Lyon, au milieu des vignerons. Le brasseur a un nom, il s'appelle Grégoire Boeuf. On l'a appelé au téléphone, il se trouvait justement au Japon.
En ce moment, je suis en train de lancer les ventes sur le sol japonais, puisqu'on a, on a importé là-bas maintenant. Et pour faire du business au Japon, de manière générale, il faut rencontrer les gens et c'est important, surtout quand on fait du saké, a priori, ou quelque chose qui va être consommé, de le présenter soi-même, en fait. Donc là, je suis en train de faire la plantation des sakés dans des restaurants, dans des bars. Je fais des petits festivals et des quinzaines commerciales aussi. Là, je suis à Takashimaya, qui est l'équivalent des galeries Lafayette, où on vend le saké depuis à peu près 10 jours.
Au Japon, le saké a du mal à se vendre, des brasseries ferment. Quand les brasseurs vous ont vu arriver, ils vous ont dit quoi ?
J'ai fait les choses à peu près dans l'ordre. C'est-à-dire que je suis passé au Japon apprendre dans une brasserie, rencontrer les brasseurs avant, discuter du projet. Et c'est uniquement parce que mon projet leur a plu et qu'on avait produit des sakés traditionnels de la méthode la plus proche de ce qu'ils ont l'habitude de faire eux, qu'ils ont accepté de mêler en fait. Et ils considèrent au contraire que c'est une bonne opportunité pour le saké à l'étranger d'avoir de la représentation, de la visibilité en fait. Donc on est plutôt bien accueilli.
Comment est-ce que l'on fabrique du saké en France ? Le riz à saké, ça se trouve pas partout ?
On importe le riz simplement. La contrainte n'est pas tellement de faire pousser du riz, on fait pousser du riz en Camargue. Il n'y a pas de problème, c'est surtout le polissage en fait. Le riz doit être poli pour retirer les couches externes qui sont constituées de protéines et de sels minéraux. Et les machines à polir en France, ce sont les machines plutôt à blanchir et qui ne sont pas adaptées au polissage du saké, qui peut prendre très longtemps, ce qu'il faut éviter que le riz abrase ou chauffe ou se brise. Et les concasseuses ne permettent pas pour l'instant d'en arriver là. Donc la simple contrainte, c'est ça, c'est le polissage surtout. Mais ça se fait faire au Japon, très bien, il n'y a pas de souci. J'ai une petite contrainte personnelle qui est l'ordre de la prise en compte de l'environnement. C'est pas, je veux dire, un conteneur par an, c'est pas non plus énorme, mais c'est j'aimerais bien à terme pouvoir réussir à produire avec du riz français, bien évidemment, et avec un riz qui aura un impact moindre sur l'indice carbone.
Les Larmes du Levant, c'est le nom de votre brasserie. Vous êtes au milieu des vignes. Et vous le dites d'ailleurs, le terme êtes-vous, une hétérodoxie majeure au royaume du vin, c'est-à-dire ?
C'est quand même quelque chose qui est assez peu commun. La logique aurait voulu que si je souhaite produire effectivement une boisson alcoolisée, considérant le contexte et le lieu où je suis, ça aurait été tout à fait simple simple. Ça aurait été beaucoup plus logique de produire du vin. Simplement, je choisis de faire du saké, ce qui est plutôt étrange et effectivement assez hétérodoxe.
Pourquoi le saké ?
Parce que j'adore ça. Simplement. Je suis tombé amoureux du saké en visitant le Japon en famille en 2013. J'en ai bu beaucoup. En fait, c'est le hasard de la vie qui a fait que j'ai pu rencontrer quelqu'un qui connaissait un importateur, qui m'a présenté un brasseur, qui m'a invité à venir chez lui. Et tout s'est fait dans le bouddhisme. Il y a une notion qui s'appelle le goen, en fait, qui est une espèce de destin qu'on provoque en suscitant des rencontres, en se comportant de certaines manières avec les gens, en fait, qui vont dans le même temps, vous offrez la possibilité de rencontrer d'autres personnes et ainsi de suite. Tout s'est fait comme ça. Il y a 10 ans, on m'aurait dit qu'il fallait du saké maintenant, j'y aurais peut-être pas cru.
Réveiller le goût des Japonais pour le saké et séduire les palais étrangers, c'est tout l'enjeu pour les maisons japonaises qui n'exportent encore que 5% de leurs bouteilles, quand 98% de la production du cognac est destinée à l'exportation. Une réussite à méditer aussi pour les Japonais. Merci à Yann Rousseau pour nous avoir fait partager sa passion du saké. Merci également à Grégoire Boeuf des Larmes du Levant et à Siméon Mollard d'Ozaké.fr. La story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nina Halmberg avec Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à les partager. Pour l'info en temps réel, c'est sur leséchos.fr.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.